International Undercast.
International.
Daba International Undercast.
L'info d'en bas, c'est plus faux.
Daba.
Nous sommes le 18 mars 2022 à Tunis, au deuxième assise internationale du journalisme. Et notre invité est béninois, il s'appelle Ignace Sossou, journaliste et chargé de communication pour la cellule Norbert Zongo pour le journalisme en Afrique de l'Ouest. Alors Ignace, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Qui es-tu?
Alors merci, on m'appelle Ignace Sossou, je suis journaliste béninois. Mais depuis plus d'un an, je suis responsable média et communication de la cellule Norbert Zongo pour le journal d'investigation en Afrique de l'Ouest, comme vous venez de le dire. Et donc, je suis basé à Ouagadougou, Burkina. Voilà, la CENOZO, si vous voulez, hein, c'est une organisation régionale de journalistes d'investigation qui couvre tous les pays de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et la Mauritanie. Donc, au total, la CENOZO couvre 16 pays de l'Afrique de l'Ouest.
Et qui est Norbert Zongo, cette cellule Norbert Zongo pour laquelle tu travailles?
Alors, Norbert Zongo, c'est le nom d'un journaliste d'investigation burkinabé qui était très connu dans les années 90, mais qui malheureusement a été assassiné parce qu'il faisait une enquête sur un sujet sensible. Mais il a été assassiné en 98. Donc, c'est un hommage à son travail, à son parcours de journaliste d'investigation qu'on a donné le nom Norbert Zongo à la cellule d'investigation en Afrique de l'Ouest.
Alors, même donc tu es béninois, mais tu travailles au Burkina Faso. Alors, peut-être nous situer ce pays, il est grand comment? Est-ce qu'on y est libre en matière d'expression? Alors, on pense tous à Thomas Sankara, et révolutionnaire, malheureusement assassiné comme tant d'autres. Raconte-nous le Burkina aujourd'hui, il ressemble à quoi ce pays?
Alors le Burkina actuellement, le Burkina est en période de transition parce qu'il y a eu un coup d'état le 24 janvier dernier. Donc c'est les militaires qui ont pris le pouvoir qui gèrent actuellement le pays. Donc c'est une sorte de régime hybride avec des militaires au pouvoir, avec un gouvernement civil. Mais ça n'a pas mis en péril, outre mesure, la liberté d'expression dans ce pays parce que les journalistes font quand même leur travail. Il y a des médias critiques sur la gouvernance, il y a des médias libres sur, comment on appelle, tout ce qui est question de droits humains et tout. C'est vrai que ça, c'est un peu comme dans tous les pays d'Afrique. Hein. Il y a toujours, qu'on appelle ça, poursuite contre des journalistes qui font des enquêtes sur des sujets critiques. Mais de façon globale, je pense que le Burkina aujourd'hui est à cheval entre qu'on appelle une démocratie, un régime militaire. Et cela, bon, ça pose un petit problème, mais bon, je pense que le pays quand même fonctionne et ça permet aux journalistes de faire leur travail.
Alors, mais peut-être aussi nous retracer ton parcours. Alors, comment un Béninois devient journaliste au Burkina? Enfin, tu veux bien nous raconter si tu as fait des études, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Enfin, comment ça se passe quand on a envie de devenir journaliste en Afrique de l'Ouest?
Alors, moi, j'ai commencé le journalisme depuis que j'étais au collège. Il fut une année au Bénin, il y avait ce qu'on appelle la presse académie. Donc c'est des cellules de presse qui sont créées dans les écoles et ça permet aux élèves de pratiquer les genres journalistiques, d'animer le groupe de presse de leur collège. Donc moi j'avais commencé avec ça en 2007-2008 et donc après mon baccalauréat je suis allé faire qu'on appelle l'économie à l'université. Mais après, je suis revenu au journalisme professionnel où j'ai commencé avec un média en ligne qui s'appelle Bénin Web TV. C'est le premier média 100% web que le Bénin a connu. Et donc, voilà, moi, j'ai commencé comme ça. Et après, je me suis spécialisé dans l'investigation. Voilà, donc j'ai travaillé sur plein d'autres sujets, trafic de drogue, corruption, fraude fiscale. Bon, ces sujets me passionnent parce que, avec mon parcours de universitaire en finance, en économie, donc j'avais beaucoup plus de facilité à travailler sur cette thématique. Donc, du coup, voilà, j'ai fait des enquêtes qui m'ont valu des poursuites, notamment en 2019. J'ai été poursuivi en justice parce que j'ai fait une enquête sur la fraude douanière. La fraude douanière, il y a une société qui est basée au Bénin, si vous voulez, je vous raconte très rapidement. Une société qui est basée au Bénin, qui commande des produits chimiques en Italie et qui, pour faire ses commandes, utilise un trader qui est basé en Belgique et qui reçoit des commissions sur ses achats dans une banque basée en France. Et donc, du coup, moi, dans mon enquête, j'ai pu trouver, comment on appelle, les traces de ces opérations. Et après publication de l'enquête, j'ai été poursuivi en justice. D'abord pour faux commis dans les éléments de preuve, parce que la justice avait estimé dans un premier temps que les éléments de preuve que j'ai utilisés étaient faux. Mais au cours du procès, le plaignant n'a pas pu apporter la preuve contraire parce que le ministère public avait demandé au plaignant de démontrer que les documents n'étaient pas vrais, mais il ne pouvait pas. Et donc, en plein procès, les chefs d'accusation ont changé. Un procès au bout de... Pendant 2 mois, deux mois de procès au bout duquel j'ai été condamné à 1 mois de prison avec ceci et à 500 000 d'amende avec ceci.
Franc CFA ?
Oui, franc CFA. Alors, c'était le premier procès que j'ai connu en tant que journaliste. Mais après, il y a eu d'autres procès, toujours dans le cadre de mon travail. Et donc en Afrique de l'Ouest, c'est pas toujours simple de devenir journaliste. C'est vrai, il y a plein d'écoles de journalisme qui forment, mais moi j'ai pas fait une école de journalisme. J'ai fait la presse académique, dont on avait des enseignants, des étudiants en journalisme qui étaient en année avancée, qui venaient nous encadrer. Et c'est de là, moi, j'ai appris tout ce qui est journalistique pour aujourd'hui exercer le métier.
Mais alors, comment réussir des investigations avec tous les risques que ça comporte, comment se protéger, comment construire du journalisme différent qui peut s'attaquer au pouvoir économique, politique, sans se mettre excessivement en danger.
D'abord, il faut rester en phase avec son lectorat ou avec sa communauté, si vous voulez. Parce que le journaliste est là pour apporter une réponse, pour provoquer un changement positif dans la vie de la communauté. Et donc, il faut identifier les problèmes qui gangrènent la société et pouvoir se positionner là-dessus. Vous savez, au Bénin, c'est un petit pays qui est côtier, qui n'a pas de ressources financières et ressources minières particulières. Donc, il y a pas de pétrole, de fer, etc. Donc on n'a pas de grandes ressources. Et donc c'est un pays purement fiscal, l'économie est purement fiscale. Alors quand vous êtes dans un pays comme ça et que vous découvrez qu'il y a une entreprise qui fait dans la fraude fiscale, dans la fraude douanière, donc du coup ça vous interpelle d'abord en tant que citoyen et en tant que journaliste, vous avez envie de découvrir ce qui se passe et d'apporter l'information au public.
Et comment se financer ? Parce que je ne sais pas, est-ce que tu es salarié, tu es bénévole ? Comment tu vis
À Bénin Web TV, j'avais un salaire. J'avais un salaire au début, j'avais un salaire mensuel. Mais après, j'ai changé de régime pour devenir pigiste. Donc, je suis payé au pige. Et après, maintenant, je fais de la collaboration sur d'autres... d'autres sujets. Par exemple, en 2019, j'ai collaboré avec des journalistes allemands sur une enquête. Donc, pendant toute la période de la collaboration, j'avais une rémunération. J'interviens aussi en tant que consultant pour qu'on appelle le développement des médias, des nouveaux médias qui se mettent en place. Je pense particulièrement à un média qui est au nord du Bénin, qui est un média régional. Et qui veut faire exactement la même chose que le média dans lequel j'ai grandi au plan professionnel. Donc, du coup, je fais de la consultation en termes de développement de contenu, stratégie média, etc.
Le an African. I am African. Broadcast Africa.
Africa cassette, Radio Moleko.
I am an African.
Say we try a samba. The samba goes like this.
I am in Africa.
Send me back, send me back, bring me back to Africa. Send me back, send me back, bring me back to Africa.
I am in Africa. I'm an African.
Africa is a wonderful continent.
I am in Africa. I'm an African.
Africa is a wonderful continent. I want to use my hunting skills, my natural hunting skills. I want to use my hunting skills, my natural hunting skills. I want to hunt my own food. I want to mark my territory. And I rep for the USA, the United States of Africa.
Alors, nous accueillons aussi Sarah et Idrissi et Rouloud Ayari. Qui ont... Sarah, tu as une question pour notre invité.
Oui, j'ai une question pour Ignace. Du coup, est-ce que tu as été soutenue lors de ton arrestation? Comment ça s'est passé? Est-ce que les structures, les organisations avec lesquelles tu collaborais ont pu te soutenir, en tout cas dans ce parcours-là?
Bien sûr. Je viens de dire tout à l'heure que j'ai fait l'objet d'un procès pendant 2 mois. Mais ce procès ne m'avait pas conduit... en prison, mais après voilà, il y a eu comment on appelle un autre incident, et c'est cet incident qui m'a amené en prison. J'ai fait 6 mois de détention juste parce que on était à une conférence et j'ai relayé des propos critiques d'un procureur qui analysait en fait les lois de la République. Donc il était très critique vis-à-vis de ces lois et je les ai relayées. Après, j'ai reçu un coup de fil pour les supprimer parce que j'ai relayé les propos sur Facebook et sur Twitter. Après, j'ai reçu un coup de fil pour les supprimer parce que ces propos ne plaisaient pas le régime en place, notamment les autorités gouvernementales, le ministre, le chef de l'État. Et comme j'ai refusé de les supprimer parce que je trouvais que c'était pas normal de supprimer ces propos quand même qui étaient pleins de sens pour le Béninois, j'ai reçu des menaces d'arrestation. On dit « Ah, si tu ne supprimes pas, tu iras en prison, on viendra t'arrêter et tout ». Et voilà, j'ai pas supprimé malgré tout. Donc le lendemain matin, la police a débarqué. On m'a amené au poste de police. J'ai fait 4 jours de garde à vue. Après, on m'a envoyé en prison. Donc j'ai fait 6 mois de prison. Et pendant ma détention, j'ai reçu le soutien de beaucoup d'organisations de journalistes, des organisations que je ne connaissais même pas, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages, soutenu ma femme et mes enfants pendant que moi j'étais en détention. Et donc je sais dire, c'est votre antenne pour les remercier et pour tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant que j'étais en détention. Et cette affaire avec suscité une grande mobilisation à travers le monde. Et franchement, je pense que c'est de ça aujourd'hui le journaliste a besoin. Le journaliste ne doit pas se sentir seul en fait quand il est dans des problèmes. C'est pour ça que le journaliste collaboratif est de plus en plus une exigence, une urgence aujourd'hui pour les journalistes. Il faut se mettre ensemble, il faut travailler ensemble, il faut être dans des réseaux. Et là, quand vous êtes attaqué, c'est tout le réseau qui se sent attaqué et qui vous vient en aide.
Vous avez dit justement hier lors de votre intervention sur les médias collaboratifs et ce que ça peut avoir comme impact sur le journalisme et sur les lecteurs et l'audience, que justement vous avez eu une solidarité. En Afrique, il y a un réseau qui existe au-delà du monde, mais dans les pays africains. Et finalement, les printemps arabes, ils ont été un moyen pour beaucoup de médias d'exister et de parler. Il y a beaucoup de médias palestiniens, syriens ou autres. Qui se sont basés à Tunis pour pouvoir parler, comme toi, tu es au Burkina Faso pour parler du Bénin. Mais est-ce que tu penses qu'actuellement, en 2022, il y a des solidarités qui existent entre les pays du Maghreb, où moi je parle de la Tunisie, avec des pays de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a la crise de la migration, la Tunisie est un pays de transit. Mais là, on est en Tunisie, mais est-ce qu'il y a vraiment une africanité? Est-ce qu'il y a une Afrique qui est unie ou bien on parle toujours d'Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, Maghreb, pays du Maghreb, pays arabe?
Ignace Sossou?
Oui.
Pardon.
Non, mais vous savez, en 2018, lors des premières assises du journalisme, il y a une initiative qui a été mise en place qui s'appelle Réseau Impact Initiative, qui est un réseau qui veut réunir les journalistes des deux rives de la Méditerranée. Donc les journalistes de l'Afrique du Nord, de l'Europe et puis des journalistes de l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau avait été créé et dirigé par Philippe Couve de SAMSA FR. Alors l'objectif justement c'est ça en fait, de trouver comment on appelle un lien, parce qu'on a tendance à voir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord comme étant des entités distinctes, alors qu'on est tous sur le même continent. Et donc, parfois, on vit les mêmes réalités, on partage les mêmes problèmes et on partage des frontières ensemble. Donc, du coup, la question de la migration, vous l'avez évoquée. La question aussi sécuritaire aujourd'hui qui concerne tous ces pays avec ces frontières qu'ils partagent ensemble. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir trouver un créneau pour ces journalistes, les journalistes de ces régions de l'Afrique, de pouvoir travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et donc, ce réseau avait été mis en place à Tunis. En tout cas, la première réunion où l'idée a été discutée, c'est ici à Tunis. Après, on s'est retrouvé en France quelques mois plus tard, en mars 2019, où on a vraiment mis en place un conseil d'administration, mettre en place un conseil éditorial et tout. Mais bon, après ça, moi, je suis allé en prison parce que moi, je suis allé en prison en 2019. Mais à ma sortie de prison, les choses n'ont plus vraiment évolué. Et moi, je pense que c'est l'occasion, en fait, de relancer les choses. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette solidarité, de cette, collaboration pour pouvoir véritablement apporter des réponses aux problèmes de nos communautés. C'est essentiel.
Et la langue, d'ailleurs, déjà, je te félicite pour ton français parfait, alors que moi, je ne parle pas un mot d'arabe ou de langue africaine. Est-ce que le français, j'imagine, quand tu écris en français ?
Ouais, j'écris en français.
Donc, est-ce qu'elle sert, cette langue, à réunir des Africains et à communiquer sur une bonne partie du continent ?
Bien sûr, vous savez, moi, je dis une chose. Le français, c'est une langue que nous avons en héritage. Et c'est une langue dans laquelle on a fait nos études, dans laquelle on a grandi. Et l'année dernière, j'ai fait 3 mois au Ghana. Et pendant mes 3 mois au Ghana, j'ai essayé d'apprendre un peu un anglais. Bon, je parle un peu anglais, mais mon anglais n'est pas aussi professionnel. Donc, du coup, j'essaie vraiment de m'améliorer. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, bof, je laisse tomber parce que, voilà, je suis fier de comprendre une langue internationale. Je suis fier de pouvoir écrire, produire une réflexion en français. Et voilà, si je parle français, je n'ai pas choisi de parler français, le français s'est imposé à moi. Et ceux qui parlent anglais, ils n'ont pas peut-être choisi de parler anglais, ils sont nés par exemple au Ghana dans un système anglophone et ils parlent anglais. Et donc du coup voilà, chacun doit pouvoir être fier de ce qu'il est et être fier de ce qu'il a et pouvoir se développer dans ça en fait. Donc du coup je me dis et l'autre chose qui m'a marqué, c'est que l'effort que les francophones font pour parler le français, les anglophones ne le font pas pour parler le français. Vous voyez, les francophones font beaucoup d'efforts pour comprendre l'anglais et parler l'anglais. Mais j'étais déçu de voir que les anglophones, ils ne font pas d'efforts. Ils ne vont même pas parler, ils ne vont même pas essayer de parler un seul mot. En fait, la majorité quand même des anglophones, ils se foutent complètement du français. Je me dis, bon voilà, donc quand c'est comme ça, pourquoi nous, on doit se casser, comme on appelle la tête, pour comprendre leur langue alors qu'eux, ils ne s'intéressent pas à notre langue. Et donc, du coup, je me dis, bon, voilà, quoi, je suis français. Enfin, je parle français, excusez-moi. Je parle français, donc, du coup, je suis fier de tout ce que je peux faire avec cette langue qui est parlée au plan international, qui est parlée par des milliers de personnes. Et donc, voilà, c'est ma vision sur la question.
Sarah ?
En tout cas, moi, je pense que... On essaye, en tout cas en Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne ou au Maghreb, de s'armer comme on peut en apprenant toutes les langues qu'on peut apprendre pour qu'on puisse mieux s'intégrer là où on est dans le monde. En tout cas, merci pour ton témoignage.
Et peut-être nous laisser un contact si on veut découvrir Ignace Sossou et les productions journalistiques qui sont les tiennes. On va où sur Internet ?
Alors, mes productions journalistiques sont sur Internet. Donc, comme je l'avais dit au début, j'ai travaillé pour Benin Web TV, dont le site Internet, c'est beninwebtv.com. Après ça, maintenant, vous pouvez découvrir mes autres productions sur mon compte LinkedIn, parce que je mets souvent des liens là-bas. Ou mon compte Twitter Ignace Capé, et voilà, maintenant si vous voulez apprendre plus sur la Cénozo, c'est cénozo.org. C'est une plateforme voilà, sur laquelle vous avez toutes les informations concernant cette organisation régionale et toutes les enquêtes que nous avons éditées ces 4 dernières années. Et voilà, je pense qu'il y a du contenu assez intéressant là-dessus. Cénozo.org.
Cénozo.org ou beninwebtv.com ou le compte Twitter, LinkedIn d'Ignace Sossou à chercher sur Internet. Merci beaucoup Ignace Sossou, journaliste et chargé de communication, notamment pour la cellule Norbert Zongo pour le journalisme en Afrique de l'Ouest. Merci. Sarah et Rouloud, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Africanité pluriel. Arouk Efrikia. Rencontre. Droka Lametna. Résilience. Une parole libérée pour raconter une autre histoire. Pour raconter des histoires. Tawa. Une revanche de la mémoire. Et des mémoires. Transition. جينا هوني نحكيو قصة أخرى. برشا قصص.